C'est toujours agréable d'être désigné par le mot de frère, surtout quand on vient d'une autre église. Je suis pasteur dans l'église réformée. Quand on vient d'un autre pays, j'ai grandi en Belgique, j'ai vécu en France. Et pourtant, quand on arrive dans une communauté qui aime le Seigneur Jésus, il faut que quelques minutes pour qu'on s'appelle les uns les autres frères et sœurs. Et c'est vrai que cela nous a été rappelé. On peut être réfugié, on peut être étranger dans une terre inconnue, et pourtant l'Église, j'espère qu'elle l'est dans la plupart des cas, un vrai lieu de fraternité. Voilà, on va essayer de faire fonctionner la machine. Très bien. Je vais vous poser d'abord une question. Est-ce que vous savez ce qui va se passer mercredi ? C'est le 2 mars, voilà. Ça c'est. Merci de nous rappeler le calendrier. C'est pas mon anniversaire, non. Mercredi des cendres. Et donc, c'est le début du carême. Merci de me couper l'herbe sous les pieds. Moi, je m'attendais à ce que personne ne réponde cela, et puis j'aurais pu amener mon petit savoir. Alors, c'est vrai que je suis professeur de théologie à la HET. J'enseigne la théologie pratique, tout ce qui touche au culte, à la liturgie, à la spiritualité. Et c'est un des éléments que j'apporte souvent dans les cours, c'est de nous rappeler que Dieu a voulu que notre temps soit un temps pas seulement structuré, savoir que ce sera le 2 février, c'est important, on a besoin de connaître des dates, mais que le temps soit sanctifié. Et le fait que nous nous rassemblions dimanche après dimanche, c'est qu'au moins un jour dans la semaine, nous sanctifions nos semaines. Mais ce n'est pas seulement les dimanches, mais aussi toutes ces fêtes que le Seigneur a instituées. C'est même pour ça qu'il a créé les astres, pour qu'il rappelle à Israël et puis à l'humanité que voilà, les jours qui se succèdent ne sont pas juste des jours pour faire du commerce, ou comme on le voit dans nos sociétés, pour petit à petit rogner tout ce qui est spirituel pour en faire du commercial. Alors nous allons entrer dans ce temps du carême, 40 jours, et à la haute école, mardi et jeudi, on va préparer ce temps, on va même vivre jeudi un temps de jeûne et de prière avec tous ceux qui veulent s'y joindre, pour nous préparer à célébrer le dimanche de Pâques. Célébrer cette semaine sainte où Dieu, en son Fils, a vaincu les puissances du mal, où il a terrassé le péché, où il a triomphé de la mort. Alors c'est vrai que chez les protestants et chez les évangéliques, on a mis le carême de côté, parce que ça fait catholique, parce que ça fait œuvre méritoire, et que nous savons, grâce à Martin Luther, que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres et que nous ne sommes pas sauvés par le carême. Mais c'est vrai que parfois, en voulant corriger peut-être un excès, on en commet un autre. Et que peut-être, malheureusement, le christianisme protestant ou le christianisme évangélique a oublié que nous avons besoin de ces temps particuliers où notre être tout entier, notre cœur, notre intelligence, notre esprit, notre volonté se laisse façonner par l'écoute de la parole de Dieu. Et ce qui me frappe, c'est que depuis 2 ans, avec le Covid, on a vécu tous une espèce de grand carême non désiré. Alors on a tous été privés de beaucoup de choses. Alors au début, on était privés du papier WC. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, on était privés de masques. Il n'y en avait pas, on n'avait pas prévu. Et puis on était privés de notre vie relationnelle. Mon épouse a ses parents à Strasbourg, moi j'ai mes parents en Belgique, et puis voilà, dans les premiers mois du confinement, les mouvements hors des frontières étaient tout à fait impossibles. Nous avons été privés peut-être de travail. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis aux Pays-Bas qui est dans le tourisme. Tenir 2 ans sans aucune ressource financière, ça a de quoi de vous plomber le moral. Alors oui, on est dans cette époque, et puis une fois qu'on commençait à en sortir, début de la semaine dernière, la Suisse lève toutes les contraintes Covid, et voilà que M. Poutine a la mauvaise idée de déclencher une guerre qui va nous remettre aussi dans des situations difficiles. Je ne sais pas si, comme moi, vous regardez le prix de l'essence grimper, si vous regardez le prix des pâtes, si vous regardez toutes ces choses qui nous laissent présager un avenir pas si heureux que cela. Et nous voyons dans les évangiles que quand Jésus se prépare à monter à Jérusalem, il ne le fait pas comme ça, les mains dans les poches, en sifflotant des petits airs joyeux. Il durcit son visage parce qu'il sait que les semaines qui vont être vécues par lui et par ses disciples vont être des semaines exigeantes. Qu'il y a à Jérusalem des hommes qui se sont concertés pour le mettre à mort. Il sait que ses plus proches, la plupart, vont le laisser tomber. Et Jésus se prépare. Alors il n'a peut-être pas fait un mercredi des cendres, il n'a peut-être pas décrété un carême, mais il s'est préparé. Est-ce que nous sommes prêts? Là aussi, nous nous souvenons de l'actualité récente. Nos pays n'étaient pas prêts. Pas de masques, pas de vaccins, pas assez de lits de réanimation. Dans certains pays, pas assez de médecins, pas assez de soignants. Et souvent, on reproche ça à nos responsables. C'est de votre faute, c'était à vous de vous préparer. Mais d'un autre côté, nous sommes aussi des sociétés d'insouciance. Nous, tout ce qu'on cherche, c'est à pouvoir faire un bon restaurant. Certains jeunes à sortir en boîte, à aller faire du ski. Notre fils, ce qui l'a embêté, c'est qu'on ne pouvait plus aller à Europa Park. Alors c'est vrai que nous sommes dans cette société souvent d'impréparation, d'insouciance, de divertissement, de légèreté. Et je ne suis pas tout à fait sûr que ça n'a pas un peu rejailli aussi sur nos églises chrétiennes. Sans doute pas à Cossonay. Vous êtes visiblement une église bien préparée. Enfin, je n'ai pas vu les abris sous la nouvelle construction. Je n'ai pas vu vos réserves financières ou vos réserves alimentaires ou tout ce que vous auriez pu préparer. Mais est-ce que nous sommes prêts? Alors je vous propose une première lecture un peu déconcertante dans la lettre que Paul écrit aux Corinthiens, la première, au chapitre 6. On m'a dit que le texte, voilà. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Alors on pourrait se dire, ça ne nous concerne pas ça. En tout cas, pas parmi nous, pas à Cossonay, pas dans l'église évangélique. Paul ajoute, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Bon, c'était à Corinthe, c'était une ville un peu spéciale. En Suisse, les choses sont plus calmes. Mais, Paul ajoute, vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Quand vous entendez un tel texte, tout de suite, certainement, votre esprit se dit « Ah, j'ai l'impression qu'il va partir dans ce sens-là. » En plus, il vient de la acheter. Il va nous faire un petit sermon bien moralisateur. Et c'est vrai que s'il y avait parmi vous des hommes et des femmes qui sont là pour la première fois, qui connaissent rien au christianisme et qui entendent un tel texte, ils pourraient se dire que la Bible, le Nouveau Testament, le message des Écritures, la foi des chrétiens, c'est pas très cool. C'est pas très tolérant, c'est pas très inclusif. Est-ce que le message chrétien, c'est juste faire comme ça une liste de péchés, entre guillemets, ou de comportements qu'il faudrait réprouver? Est-ce que être chrétien, c'est ne jamais se comporter comme Paul nous le dit dans cette liste? Mais nous le savons, et en particulier quand nous venons des milieux évangéliques, et je suis aussi un réformé évangélique, donc je peux aussi parler un petit peu du point de vue évangélique, c'est que peut-être le piège pour notre manière de vivre la foi chrétienne, parfois c'est d'être moralisateur et légaliste. Et de finir un peu comme ce pharisien dont Jésus nous parle, au chapitre 18 de l'évangile de Luc, qui est là dans le temple et qui dit « Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts, que je ne suis pas comme toutes ces personnes dont Paul dresse la liste, mais que moi je suis un bon croyant, je prie, je lis la Bible, je donne ma dîme, je ne fais rien de travers. » Et vous connaissez la fin de cette histoire où Jésus dit, mais quand Dieu se prononce sur les deux prières, celle qu'il écoute, c'est la prière du collecteur d'impôts. Et remplacer ce collecteur par tous ceux dont Paul a dressé la liste. Alors, je me suis moi-même mis en garde contre une lecture moralisatrice, en me disant, le rôle du chrétien, ce n'est pas toujours de se distinguer, de dire « heureusement, je ne suis pas comme tel ou tel. Heureusement, je ne me comporte pas de cette manière un peu vile et pécheresse. » Alors la chance d'avoir fait un petit peu de grec quand on est étudiant, c'est qu'on peut aller aussi creuser le texte plus profondément. Et dans ce passage de la lettre aux Corinthiens, il y a un petit mot qui m'a interpellé. C'est le mot de exousia. Pour ceux qui ont fait du grec, c'est un mot qui se traduit par autorité. Dans notre passage, il se trouve précisément au verset 12. Paul écrit « Je ne me laisserai pas dominer. Je ne laisserai rien avoir exousia sur moi. » Et c'est là que la lecture moralisatrice, on peut la laisser tomber, et relire ce passage avec un tout autre regard, beaucoup plus profond et spirituel. Ce que Paul est en train de pointer du doigt, ce sont toutes des manières de vivre où l'être humain est sous une fausse autorité. Je relis. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, Alors, il y a des jeunes oreilles, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais enfin, allez voir Netflix ou ouvrez votre télé. Je n'ai pas besoin de trop de vous expliquer. On est un peu affranchi sur ces questions. Mais il y a beaucoup de pratiques de la sexualité aujourd'hui, qu'elles soient hétéro ou homo, où d'une certaine façon, on se met sous une autorité qui n'est pas celle de Dieu. On se laisse dominer. Il y en a même qui payent pour ça. Les idolâtres, c'est tous ceux qui se sont façonnés quelque chose qui, dans leur vie, a autorité, devant quoi ils plient le genou. Il y a beaucoup d'idoles en Suisse, comme dans tous nos pays. L'idole du troisième pilier, avec lequel on se rassure pour ses vieux jours. Je vous laisse compléter la liste. Les adultères. Qu'est-ce que c'est que l'adultère ? C'est vivre une tromperie dans une relation d'alliance. Se mettre sous l'autorité d'un conjoint qui n'est pas notre conjoint légitime. Et on sait à quoi cela mène. Les travestis. C'est avoir ce besoin compulsif de se vêtir d'un vêtement qui montre que le genre est complètement, comment dire, flou, incertain, que nous n'avons pas été établis par le Seigneur dans notre autorité, dans notre identité sexuée. Les homosexuels, alors là aussi, on aurait presque envie d'enlever ce mot de la liste, tellement on aurait peur d'avoir les foudres des ligues LGBT. Mais le mot que Paul utilise montre bien ce qui était aussi une forme de l'homosexualité dans l'Antiquité, où c'était un rapport de dominant et de dominé. Et là aussi, sans vouloir stigmatiser toute cette communauté, quand on accompagne pastoralement des personnes qui sont dans ce vécu, là aussi, on se retrouve très vite avec ces questions d'autorité. Les voleurs, ils sont sous l'autorité de la cupidité, ils en veulent toujours plus. C'est ce que Paul ajoute, ceux qui sont désireux de posséder encore plus. Les ivrognes, sous l'autorité de l'alcool. Les calomniateurs, sous l'autorité de la médisance. Les exploiteurs, toutes ces sociétés qui, pour faire du profit, mettent les gens dans la misère. Je trouve que cette lecture, pour moi, était très éclairante. Que nous sommes dans un monde où la plupart de celles et ceux qui nous entourent vivent sous des autorités qui sont des autorités perverties. Alors que par la foi en Jésus-Christ, par le baptême, nous choisissons que Dieu, en son Fils, soit notre Seigneur et nous reconnaissons son autorité sur nos vies. Ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas d'être ni des dominateurs, ni des dominés. Il attend de nous d'être des serviteurs. Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui avait toute autorité dans les cieux et sur la terre, il s'est fait serviteur au moment où il partageait ce repas avec ses disciples dans l'évangile de Jean. On le voit se mettre à genoux, laver les pieds de ses disciples. Est-ce que nous, comme chrétiens, est-ce que nous, comme Église, nous cherchons une position dominante ou est-ce que nous cherchons à nous mettre au service du monde ? Alors le carême, c'est peut-être un des premiers sens qu'on peut lui redonner, c'est que c'est un temps long, 40 jours, pour que le Seigneur puisse faire cette œuvre de nous remettre face à lui dans une position qui soit juste. C'est un temps où nous pouvons peut-être lui apporter ce qui domine encore dans nos vies. Je vais être très concret. Avec mon épouse, travaille chez MEDER et qui a fait beaucoup de télétravail. Donc on était à la maison. Moi, j'habite à la HET, donc mon bureau est à 3 minutes à pied, même pas. Alors quand la journée est finie, on a la chance d'habiter un joli logement avec vue sur le lac. Dans le premier confinement, il faisait tellement beau, mars, avril, mai 2020, que quand la journée était finie, on se prenait un petit apéro. Alors moi, le belge, une bonne bière. Elle, l'alsacienne, un bon vin blanc. Et puis un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois, trois mois. Quand tous les jours, vous vous mettez à l'apéro, saucisson, chips et petites boissons, alors déjà, voilà, comme le dit Paul, le ventre qui va être éliminé, mais surtout l'alcool. Et puis on s'est dit, à ce moment-là, qu'on allait faire aussi un mois sans alcool, simplement pour être vérifié que nous ne nous mettions pas sous la dépendance de l'alcool. Essayez de faire ça avec vos ados, de leur dire, ne serait-ce qu'une semaine, arrête d'être dans la dépendance de TikTok, WhatsApp, Instagram et de ton téléphone. Est-ce que Dieu ne veut pas que dans le concret de nos vies, nous puissions le laisser éclairer notre quotidien et nous montrer ce qui nous met sous des fausses autorités pour retrouver la seule véritable autorité qui est la sienne? De manière beaucoup plus globale, est-ce que le Covid, et je ne pense pas qu'on puisse dire que Dieu n'a rien à voir avec cette situation, est-ce que Dieu n'a pas permis que le Covid soit aussi pour toute l'humanité l'occasion de se reposer les vraies questions, de retrouver les vraies priorités, de voir là où peut-être nous avons péché, où nous devons nous remettre en question? Alors je vous invite à profiter à partir de mercredi, peut-être vous avez jusqu'à mercredi pour prier, Seigneur, montre-moi au moins un domaine où tu veux que ce soit ton autorité qui reprenne ses droits et que je ne sois pas sous une autre autorité. Parce que là aussi, je pourrais vous poser la question, est-ce que vous connaissez dans votre entourage une personne qui est dans une dépendance ou dans une addiction? Qui ne connaît personne qui soit victime de dépendance ou d'addiction? Levez la main. Est-ce qu'il n'y a pas là un beau défi aussi pour le témoignage de l'Église? Mais ça resterait quand même au niveau un peu horizontal de la question. Et je vous propose un deuxième texte où on retrouve aussi ce mot de exousia dans l'Apocalypse. Ce texte aussi va être projeté, je vous invite à le suivre. Apocalypse 12. Je lis à partir du verset 7. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Quand j'ai choisi ce texte, je ne savais pas que Poutine allait déclencher une offensive, mais voilà un texte guerrier. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. C'est le symbole de la ville de Bruxelles. Si un jour vous visitez la Grand Place, vous verrez au sommet de l'hôtel de ville une statue dorée avec Michel qui terrasse le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité, exousia, de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu, grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Qu'est-ce que ce texte a à voir avec le carême ? Pourquoi est-ce que je vais chercher comme ça un texte un peu flippant ? Parce que quand on s'est rangé par la foi sous la seigneurie de Jésus-Christ, quand on le sert dans l'Église, quand on confesse son autorité sur nos vies et sur l'histoire du monde, on est obligé toujours d'avoir la grande perspective. Pourquoi Jésus est-il monté vers Jérusalem ? Pourquoi a-t-il donné sa vie pour la croix ? Juste pour qu'on change le calendrier et qu'on décide que l'an zéro, ce serait la naissance de Jésus ? Jésus a donné sa vie pour que l'histoire de l'humanité bascule et que le triomphe de Dieu soit manifesté de manière définitive. Alors c'est vrai que ça fait 2000 ans et que des fois on peut un peu se poser des questions. Est-ce qu'on ne se serait pas un peu trompé ? Est-ce que la victoire de Jésus, ce ne serait pas une demi-victoire ? Et c'est là que des textes comme ceux de l'Apocalypse nous rappellent que du point de vue de l'éternité et du point de vue de Dieu, la perspective est définitive. Il est vaincu l'ennemi. Il est vaincu Poutine. Ils sont vaincus ceux qui persécutent les églises. Elles sont vaincues les puissances de la cupidité, de l'injustice, de la violence. Et ce que nous voyons avec l'Apocalypse, et j'ai appris ça pendant mes études, j'ai eu la chance d'avoir le professeur à Strasbourg qui était le spécialiste de l'Apocalypse, c'est que dans l'Apocalypse, on est tantôt sur la terre, ça c'est les chapitres où ça se passe pas très bien, ça fait peur, mais on est aussi dans ces chapitres où nous sommes déjà dans le ciel. Et quand on voit ces chapitres, et c'est pour ça que la louange dans l'Église, c'est un cadeau merveilleux dans les dernières décennies, parce que la louange, pas que par le chant, mais par la prière, par l'intensité des cœurs, nous rappelle que notre vrai lieu de vie, c'est pas sur terre, mais c'est que nous sommes déjà dans les lieux célestes. Nous contemplons Dieu, nous contemplons l'agneau, son trône, et tous les chants que nous avons chantés ce matin sont des chants qui fortifient notre foi. Alors bien sûr, on reste aussi sur terre, et c'est pas agréable. Il y a des choses dures. Alors en Suisse, on n'est pas les plus à plaindre. Mais l'Apocalypse est là pour nous montrer que la perspective du carême, c'est pas simplement qu'à Pâques, on va manger des œufs en chocolat, et puis qu'on sera content d'arrêter les privations, mais que nous nous préparons à cette grande Pâque finale qui est celle de la venue en gloire de Jésus-Christ. Alors bien sûr, je suis prudent, je ne vais pas vous dire que c'est pour cette année, mais qui sait ? Si cela ne vient pas plus vite que ce que nous pourrions croire. Et en tout cas, quand demain je vais commencer un cours que je donne ce semestre sur la vie des ministères, c'est la volonté que j'ai, c'est de dire aux étudiants, mes chers amis, on n'est pas juste là pour faire un petit cours et puis vous le mettrez dans vos archives quand le semestre a fini, mais préparons-nous. Préparons-nous pour des temps qui sont des temps exigeants. Préparons-nous pour un combat qui peut surgir alors que nous ne l'attendions pas, et que ce temps du carême soit l'occasion de nous préparer, de ne pas être pris à l'improviste. Parce que le Seigneur veut nous donner son autorité. Et je crois que nos églises occidentales, qui ont été mises dans le coton du confort pendant des décennies, nos petites églises occidentales ne sont pas préparées. Alors, je ne veux pas souffler un vent de panique, je ne veux pas vous inquiéter, mais je veux juste que nous saisissions tous ensemble que ce temps que Dieu nous donne, qui nous conduit vers Pâques, vers la victoire de sa croix, c'est aussi peut-être pour laisser sa parole et son esprit nous préparer. L'ennemi est là, sur la terre. Il n'aime pas les chrétiens. Il n'aime pas l'Église. Il n'aime pas les familles qui veulent se construire sur le fondement de la parole de Dieu. Il n'aime pas les hommes et les femmes qui prient, qui jeûnent, qui recherchent la face du Seigneur. Il n'aime pas ceux qui louent. Tout cela, nous le faisons. Mais faisons-le encore plus. Cherchons cette face du Seigneur pour tenir bon quand les jours seront mauvais. Dans la plupart de nos médias, on va nous parler de la guerre, des conflits, des réfugiés. J'espère que vous avez la chance aussi d'avoir des infos qui viennent de chrétiens, d'Ukraine et d'ailleurs, et qui montrent des hommes et des femmes qui prient. Dans 10 jours, nous devions accueillir des représentants de la plus grande communauté messianique de Kiev pour justement un petit peu échanger sur ce que Dieu est en train de faire et puis peut-être qu'ils ne viendront pas à cause de ce qui se passe. Mais dans 15 jours, c'est Pourim. Bien sûr, pour les chrétiens, ce n'est pas une fête. Mais relisez peut-être dans 15 jours l'histoire d'Esther. L'histoire de cet homme Haman, un peu comme Poutine, qui croit qu'il tire toutes les ficelles. Que va faire Esther et Mardoché et toute la communauté juive? Ils vont faire un petit carême. Ils vont jeûner. Ils vont prier. Elle va risquer sa vie. Mais Dieu va révéler qu'il est le maître de l'histoire. Et il va sauver son peuple. Alors, voilà le message que j'avais sur le cœur. À la fois, je suis heureux d'être avec vous, de découvrir votre communauté, de voir que vous avez une vision, de connecter au Christ. Mais quand on se connecte au Christ, on se connecte pas simplement le dimanche entre 10h et 11h25, je vais bientôt terminer, mais on se connecte à lui tous les jours. On se connecte à sa parole, on se connecte à son esprit. On se connecte à ce qu'il nous dit aujourd'hui pour les temps où nous sommes. Et ce que je vous souhaite, comme ce que je me souhaite à moi aussi, c'est que peut-être ce temps qui est là devant nous soit un temps pour nous préparer. Pas simplement dans notre petit coin, mais de nous préparer pour un service, pour un témoignage, pour une action, pour une solidarité, pour une fraternité. Et nous ne pourrons le faire que si nous nous plaçons devant lui, à son écoute, seul ou ensemble. Mais c'est vrai que nous en avons besoin, car les jours où nous sommes sont des jours mauvais. Pas trop pour nous, pour l'instant, mais ils le sont pour des frères et sœurs dans beaucoup de contrées du monde. J'ai la chance avec ma femme qui travaille chez MEDER, elle me rappelle qu'il n'y a pas que l'Ukraine pour l'instant, il y a le Yémen. Il y a l'Éthiopie, il y a des zones de catastrophes naturelles, il y a Madagascar, il y a Haïti, et puis on pourrait allonger la liste tellement longue. Ne soyons pas légers et superficiels, ne soyons pas insouciants, mais soyons des hommes et des femmes matures, prêts à relever les défis. En toute humilité, en toute simplicité, on ne va pas se faire des films, mais soyons préparés pour pouvoir être témoin du Christ vainqueur, pour pouvoir aussi prendre notre position dans le combat contre cet ennemi qui n'épargnera personne parce qu'il n'aime personne d'autre que lui. Alors ne soyons pas des enfants un peu candides et naïfs, mais soyons des hommes et des femmes qui écoutent ce que le Seigneur nous dit par sa parole. Je vous invite à prier. « Seigneur, un chant nous dit, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et parce que nous sommes tes enfants, Seigneur, tu nous donnes cette autorité que tu as donnée à Jésus, ton Fils, qui est notre Seigneur. Nous te prions que pour cette communauté, pour toutes tes églises répandues sur la surface de la terre, ce temps vers Pâques nous redonne plus d'audace, plus d'assurance, plus de foi, plus de témoignage. Non pas pour faire la leçon aux autres, mais pour que les hommes et les femmes qui sont sous la coupe du prince de ce monde puissent trouver en toi et par notre témoignage le vrai libérateur, celui qui donne à chacun sa vraie place de fils et filles du royaume. Alors commence par cette ville de Cossonay, élargis cela au canton de Vaud, à la Suisse, à l'Europe et au monde. Que l'église que tu prépares soit une église prête pour la venue du Seigneur qui vient avec puissance et avec gloire. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions dire aussi cette prière qui nous rassemble et que chacun la dise dans la langue qui est sa langue maternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous rasseoir.